Ce message vous est proposé gratuitement. Gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Bon, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous accordes. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, parce qu'en ce jour encore, tu nous conduis dans une nouvelle dimension de champion, Seigneur. Éternel Dieu, tu nous donnes encore de conquérir de nouveaux territoires. Éternel, oh Dieu, pour manifester le règne que tu veux que nous puissions manifester. Seigneur, glorifie ton saint nom. Père, viens disposer nos cœurs afin de recevoir favorablement ta parole, Seigneur. Favorablement, ça dit, Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous le cœur pour appliquer ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, inonde-moi de ta grâce, inonde-moi de ton Esprit Saint, afin que je dise la parole qui vient de toi. Car c'est seulement celle-là qui vient de toi qui apporte la vie. Seigneur, communique la vie. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, parle, Seigneur Dieu. Nous sommes à tes pieds, nous t'écoutons. Donne gloire à ton saint nom. À toi la louange, l'élévation au ciel des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons commencer encore une série d'enseignements qui va en parallèle, qui est voulu en parallèle avec ce que nous étudions le dimanche. Et les mardis, nous allons faire un cheminement pour qui sera très pratique, avec des exercices pratiques pour nous amener vraiment à retrouver notre identité. Amen. Qui nous sommes réellement? Nous sommes en train de parler pour la, en ce qui concerne la deuxième école de la gloire de Jéhovah Jireh, c'est-à-dire de ce Dieu-là qui pourvoit. Amen. Alléluia. Et avant-hier, je disais que nous sommes des êtres divins. Nous sommes divins. La Bible dit que nous sommes des dieux. Amen. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Je reviendrai encore juste là-dessus, citer quelques versets. Et puis, on va voir le cheminement par lequel Dieu est passé avec des hommes de Dieu pour les amener à entrer pleinement dans cette notion. On en parle souvent, mais on doit revenir là-dessus. Parce que si tu ne sais pas vraiment qui tu es et ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas utiliser l'autorité, parce que toi-même tu n'es pas convaincu de ton autorité, parce que tu te demandes, est-ce que tu as droit? Amen. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit de dire cela? Quel est réellement mon pouvoir? Qui suis-je en fait? Amen. Quand tu ne sais pas vraiment qui tu es limité. Tu ne peux pas jouir de beaucoup de choses. La dernière fois, le pasteur Moustapha nous a donné ici quelques images pour nous faire un peu rire, mais qui traduisent la vérité de cet homme-là, donc qui avait un problème psychologique, qui était convaincu qu'il était quoi là? Un grain de maïs. C'est-à-dire, lui, il est convaincu qu'il a un grain de maïs. Donc chaque fois qu'il vous rencontre un poulet ou bien un oiseau, il fuit. On dit, pourquoi tu fuis? Il dit, mais je suis un grain de maïs, il va me manger. Et on l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique pour essayer de lui faire comprendre qu'il est un homme. Il n'est pas un grain de maïs. Et puis bon, on lui, maintenant à l'hôpital là-bas, sur Monsieur Mme de l'histoire, on lui pose la question chaque fois, mais qui es-tu? Il dit, je suis un homme. Donc tu n'es pas un grain de maïs? Il dit, je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. On dit, ok, on voit ses parents, il est guéri, maintenant il est très conscient qu'il est un homme. Et il retourne au village. Et puis en marchant, il voit un poulet. Et encore, il se met à fuir comme auparavant. Les gens l'attrapent, on dit, oh, la maladie a repris. On l'appelle, on dit, mais qui tu es? Il dit, je suis un homme. Mais pourquoi tu fuis alors? Il dit, non, moi je sais que je ne suis plus un grain de maïs. Mais le poulet qui est là, est-ce qu'il sait que je ne suis plus un grain de maïs? Est-ce que le poulet est conscient que moi je ne suis plus un grain de maïs? Donc il doit fuir parce que le poulet ne le sait pas. Vous savez, je crois que le problème de l'identité est un des graves problèmes qu'on a dans l'église, dans notre vie, savoir qui nous sommes réellement, d'où nous venons, où nous allons. Amen. Lorsqu'on touchait le point de l'élément sur la cinquième pierre de David, j'avais cité cela. J'avais dit, et c'est de cela en fait que je vais parler. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 14, le Seigneur dit là, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je juge, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Alléluia. Jésus dit que mon témoignage est vrai, c'est-à-dire ma vie est vraie. Ma façon de marcher est selon la vérité, tout simplement parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Est-ce qu'il le dit au verset 14? Il dit, mon témoignage est vrai. Les gens sont en train de lui dire, mais tu rends témoignage de toi-même. Tu parles de toi-même. Qu'un homme ne doit pas dire qu'il est ceci, un homme ne doit pas dire qu'il est cela. Il ne doit pas se donner un titre. Il dit, non, vous peut-être, mais moi mon témoignage est vrai. Parce que je sais d'où je viens. Alléluia. Autrement dit, le témoignage d'une personne en ce qui la concerne elle-même, son témoignage-là est faux, si cette personne-là n'est pas consciente d'où elle vient. Alléluia. Si tu ne connais pas ton origine, quelqu'un me dira sûrement, non, je sais, je suis un tel fils de temps, en citant ton père, en citant ta mère. Un jour, Jésus parla à ses disciples, il a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. C'est un passage que nous ne comprenons pas souvent parce que on voit que Jésus dans la forme ne renie pas le fait d'avoir un père biologique. Mais il dit n'appelez personne sur la terre votre père parce qu'en réalité, les pères que nous avons sur la terre, hein, dans le domaine génétique là, ne sont pas en réalité, ne sont pas dans la vérité divine. Nos pères, alléluia, en fait notre origine directe. Amen. La façon dont tu marches dans ta marche avec le Seigneur, la vérité avec laquelle tu vas marcher, est fonction de ton origine, d'où tu viens, mais pas forcément fonction de ton origine, aussi où tu vas. Amen. Alléluia. Jésus dit donc, mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Voici en fait ce voyage que nous allons faire. C'est un voyage par la grâce de Dieu très intéressant. Amen. Alléluia. Je vais commencer l'enseignement en disant de facto, comme je l'ai fait le dimanche dernier, qui nous sommes. Déjà. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce que je vais dire, beaucoup de gens l'ont déjà entendu. Mais la question que je me suis posée, c'est que pourquoi n'arrivons-nous pas à saisir cela? Et même quand on le saisit, un mois, deux mois, on dit non, je suis fils de Dieu, donc si je parle, ça marche. Je parle. Et puis à un moment donné, dès qu'on commence à avoir deux ou trois oppositions, on dit non, je reviens, je suis un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Alléluia. À un moment donné, on commence à utiliser cette autorité et ce pouvoir parce que le pasteur a prêché, on nous a enseigné, on nous a parlé. Donc on se dit, allez, mais non, Satan, tu ne peux pas t'amuser avec moi. J'ai l'autorité, je suis puissant, je suis dangereux. On vient, on commence à lier deux, trois, quatre démons. On arrive subitement devant un cinquième, il crie un peu plus que les autres, il est un peu plus costaud que les autres. On prend du recul et puis on commence à revoir d'où on vient sérieusement, franchement. Est-ce que ce démon-là, je peux le chasser? Et on est aidé par cela, par des personnes qui vont venir te dire, mon frère, il y a démons et il y a démons. Donc lorsqu'on entend cela, alors on remet en cause nos origines, notre puissance, notre pouvoir, qui nous sommes véritablement. En fait, nous déterminons notre origine en fonction des oppositions devant lesquelles nous sommes confrontés. Si on les trace facilement, on dit, alors tu dis quoi? Est-ce que je ne suis pas fils de Dieu? Amen, je suis le fils du roi, toi aussi, je suis un prince. Mais quand ça chauffe, Seigneur, je suis ton enfant, aie pitié de moi, pauvre pécheur, qui me délivrera? Qui suis-je? Dès l'instant où un homme perd dans son esprit constamment son origine spirituelle, il perd son pouvoir, il perd son témoignage, il perd son efficacité. Donc le but de l'enseignement, je vais commencer donc d'abord par qui nous sommes et puis le cheminement que Dieu fait. Parce que je me suis rendu compte que Dieu ne te dit pas qui tu es simplement avec une prédication. Il y a un travail qu'il fait afin de te délivrer, alléluia, de ce qu'il appelle ton vieil homme. Parce que le problème, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Alors je vais encore invoquer la grâce de Dieu et puis nous allons introduire ce merveilleux voyage. Amen. Et puis, j'espère qu'après chaque étape, chacun aura quelques exercices à faire par rapport à sa vie, des challenges. Comme cette année, on a donné des challenges. On dit, ceux qui ont des goulettes qui ne sont pas encore égorgées, vous avez jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Il y a une soeur qui est venue me voir la dernière fois, elle dit, ah, elle, il faut qu'elle rentre dans porteur de vie. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce qu'en porteur de vie, il y a des challenges que tout le monde relève. Depuis que les frères ont commencé à rendre témoignage de porteur de vie, mais je vous invite à rejoindre porteur de vie parce que on a des challenges, on relève les challenges, on est formé. Les élèves qui sortent de là-bas portent la vie. Amen. Seigneur, une fois de plus, je vais invoquer ton nom. Ma prière est que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, notre entendement. Je fais cette prière-là, Seigneur, que j'ai faite dimanche dernier, en disant, afin que toi, Seigneur, le Père de toute gloire, tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, que tu viennes illuminer les yeux de notre cœur, Seigneur. Que tu viennes illuminer les yeux de notre cœur. Oh Dieu, une chose est de parler de ces choses. Une autre encore est d'amener les cœurs, les esprits à saisir ta parole. Seigneur, inonde-moi de ta grâce. Viens me fortifier. Viens me fortifier afin de parler de ces choses fortes et profondes. Père éternel, que ta parole puisse donner son fruit. Dispose nos cœurs afin qu'ils puissent recevoir favorablement cette parole. Éternel, illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de la gloire de notre héritage que tu réserves aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Seigneur, donne gloire à ton nom. Inonde-moi, remplis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai expliqué cela et d'autres temps auparavant que nous sommes des esprits. Ton corps physique n'est pas ta personne. Mais généralement, nous nous jugeons, nous connaissons, nous définissons notre identité par rapport à nos cinq sens, par rapport à notre corps. Nous définissons notre identité, quand je parle de nos cinq sens, par rapport à ce qu'on a entendu. Les cinq sens, nous les connaissons, n'est-ce pas? Il y a la vue, la vision, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter. Et généralement, voici la définition que nous donnons de nous-mêmes. L'ouïe te donne la définition de ce que tu entends de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Si les personnes viennent te dire que tu entends dans ton oreille, tu n'es pas une belle personne, tu es vilain ou bien tu es ceci, ou ta tête n'est pas belle, tu définis que je n'ai pas une belle tête. Ou bien tes yeux ont fixé un critère de beauté. Et ils ont fixé le critère de beauté que pour être une personne belle, il faut mesurer une femme belle, il faut mesurer au moins 1m75, avoir une taille ainsi de suite. Et tes yeux, ou bien les yeux du monde, ont défini un certain type de critère de beauté. Et du coup, en regardant les personnes que le monde a définies comme étant des belles personnes, toi tu te définis directement comme étant une personne qui n'est pas belle. Donc, la définition, très souvent l'identité, la définition que nous avons de nous-mêmes, est une définition que nos cinq sens nous ont donnée. Alléluia. Le nom qu'on nous a donné, c'est ce nom dont nous nous appelons. Nous nous appelons Mohamed, Brice, Félix ou autre. Tous ces différents noms que les gens nous donnent. Nous nous définissons en fonction de ce que les gens ont dit de nous. Et lorsqu'on parle de connaître son identité, l'identité c'est quoi? Quand on parle d'identité, c'est la façon dont tu te perçois. Amen. Comment est-ce que tu te perçois? Comment est-ce que tu te perçois? La façon dont tu te perçois va déterminer ta vie, ton futur, ton avenir. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. La Bible dit qu'il y a quatre grandes lois qui vont demeurer. Mais il y a une loi qui m'intéresse particulièrement. C'est la loi de la semence et de la moisson. La Bible dit que, ne vous y trompez pas, dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 7. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Autrement dit, tout ce qui t'arrive dans la vie, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Dieu dit, un homme récolte ce qu'il a semé. Mes amis, on va prendre le temps dans la parole de Dieu et vous allez comprendre. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive, en bien comme en mal. Vous allez comprendre que vous êtes capable, par rapport à votre nature spirituelle, de déterminer et d'agencer la façon dont votre vie va fonctionner. Vous êtes capable, si vous connaissez votre identité, de déterminer comment votre foyer sera ou bien comment votre foyer doit être. Aujourd'hui, le foyer que tu subis, que tu vis, est le fruit de tes semences. Le célibat chronique, tu vois, est aussi le fruit d'une certaine identité, d'une certaine chose qu'on a semé en toi et que tu as semé dans la vie qui fait que, malgré peut-être ta beauté physique, malgré tout ce que tu as, les gens ne te regardent pas. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Tu récoltes ce que tu as semé. Les gens que tu attires vers toi, quand on dit j'attire mon mari ou j'attire ma femme, c'est quelque chose que je moissonne, que je récolte. Or, je ne récolte pas ce que je n'ai pas semé. Je ne récolte pas ce que je n'ai pas semé. Il dit, Dieu dit, fait dire à ceci dans le livre de Genèse chapitre 8, à Noé. Il dit, aussi longtemps que la terre va exister, il y a une loi qui va rester. La loi de la semence et de la moisson. Actuellement là, tu as le foyer que tu méritais d'avoir. Ton foyer actuel, c'est toi qui l'as créé. Vous savez, quand j'ai dit ça, ça peut commencer à choquer des personnes. Il va dire, moi je n'ai pas décidé que mon mari soit bizarre. Mais, comment tu t'es retrouvé en train d'attirer et de te marier avec une telle personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut blâmer tout le monde. On peut dire, quelqu'un m'a trompé. Comment ça se fait que tu as attiré vers ta vie un trompeur ou bien une trompeuse? Connaître votre identité, savoir qui vous êtes, ça vous permet de vous connaître, ça vous connaît de connaître vos forces, vos faiblesses, et de savoir comment est-ce que vous devez investir. Alléluia. C'est pourquoi les Écritures disent ceci, Dieu dit, quand on parle du bâton d'autorité, de ne blâmer personne. Une des conséquences du fruit qu'Adam a mangé, je l'avais expliqué la dernière fois lorsque je parlais du bâton d'autorité, c'était de tenir responsable, hein, c'est le frère de l'homme, lorsqu'on a dit à Adam, qui t'a dit de manger le fruit? Il dit c'est la femme. La femme, qui t'a dit? Il dit c'est le serpent. On demande au serpent, lui dit rien. Et j'ai dit que depuis cet instant-là, l'homme a perdu le contrôle de sa vie. Parce que quand tu dis que quelqu'un est responsable de ta tristesse, quelqu'un est responsable de tes angoisses, sans te rendre compte, c'est que tu as déposé dans ta vie un contrôleur. Ta joie et ton bonheur, ton succès et ta réussite dépendent de cette personne. Je vais t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Qui tu es? Et quand tu sais qui tu es, quand tu comprends ton identité, frère, tu fais attention à toutes choses. Amen. La vie que vous vivez aujourd'hui, sans vous en rendre compte, est le fruit, est le résultat de beaucoup de vos pensées. Parce que la pensée est une parole. Mais c'est la parole de l'esprit. La bouche, dimanche dernier, je vous expliquais que, en fait, nous sommes des esprits. Et que l'esprit habite dans ce corps. Alléluia. Alléluia. La bouche peut parler. Pendant que l'esprit a dit autre chose. Et puis quand les deux ne sont pas en concordance, ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu arrives à dire. Tu dis, mon frère, il y a eu un lapsus. Parce que ton esprit pensait à autre chose. C'est-à-dire que ta bouche peut dire autre chose. Les yeux sont les fenêtres de notre esprit. Car je peux avoir les regards fixés sur une personne et ne pas la voir. Parce que mon esprit qui habite en moi est ailleurs. Quand ton esprit est quelque part d'autre, on peut parler autour de toi, tes oreilles vont entendre, mais ton esprit n'écoute pas. Et si tu n'écoutes pas, tu n'entends pas ce que la personne, tu ne comprends pas ce que la personne est en train de dire. Pourtant, elle parle, elle t'appelle même par ton nom. Quelquefois, on t'appelle, on dit Bernard, Bernard. Et lui, mais tu es quelque part, Bernard, Bernard, Bernard. Et tu n'entends pas. Et puis on va te dire, Bernard, tu dis, excuse-moi, j'étais ailleurs. Mais qui était ailleurs? Toi-même, tu dis, j'étais ailleurs. Donc, ton vrai toi, là, ce n'est pas ton corps. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette personne-là qui détermine si tu sais qui elle est et si tu sais comment elle fonctionne, comment elle voit, parce qu'elle a une vision. Cette personne-là a sa manière de voir. Jésus pouvait dire, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, il disait à l'église de l'Odyssée, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Les gens voyaient physiquement. Mais il dit, vous êtes aveuglés. Parce que leur esprit qui habite dans leur corps est aveuglé. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu es aveugle. Lorsque Élisée a frappé les serviteurs, la troupe syrienne d'aveuglement, ce n'est pas les yeux physiques qu'il a touchés. C'était leurs yeux spirituels. De sorte que physiquement, ils continuent à voir. Mais ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne reconnaissaient rien. Qui es-tu? D'où viens-tu? Si tu crois que ton origine,
c'est la forme physique que tu as adoptée sur la terre, tu vas te tromper largement sur le sens de ta vie, sur le but de ta vie, sur ce que tu peux faire, sur ce que tu dois faire et sur ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai montré clairement, il est clair dans ce passage que Dieu dit à Jérémie, et si cela est vrai pour Jérémie, pour le prophète Jérémie, c'est aussi valable pour nous, c'est que avant notre naissance, Dieu nous connaît. Et avant notre naissance, Dieu a établi des choses bonnes, positives pour nous. Amen. Dieu a un plan pour nous. Mais il se trouve que nous sommes des dieux. Alléluia. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, la particularité de Dieu, d'une divinité, c'est qu'elle peut créer. Amen. Elle peut créer. Tout ce qui existe dans le monde visible est un fruit de l'esprit. Avant de fabriquer la voiture, il a rêvé, il a vu ça dans son esprit. Il ne s'est pas mis comme cela à prendre des morceaux de fer, à les coller, puis brusquement ça donnait une voiture. Il y avait une vue avant, une vue d'esprit. Le bâtiment dans lequel nous sommes, il était d'abord dans l'esprit de son architecte, avant qu'il le mette en œuvre. Tout se passe d'abord dans l'esprit. Alléluia. Et il ne fait pas comme ça pour dire aux gens, commençons à, et puis mettons des briques, et puis on va voir ce que ça va donner. Non. Il faut d'abord capter en esprit tout ce qui existe sur la terre physiquement. Là, je le dis simplement pour ce que peut-être on va aller coudre comme vêtement, pour la maison que vous allez construire. Je dis, une chose avant de prendre une forme physique, se trouve d'abord dans l'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes des esprits. Amen. Et c'est là que nous formons toutes choses. Soit bonne, soit positive, soit négative. Maintenant, le psaume 51, verset 7. David fait ressortir ceci. Il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. Donc, Jérémie dit, avant que je ne naisse, Dieu avait établi de bonnes choses pour moi. David dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. La conception de l'homme se passe lorsqu'il est dans le ventre de la mère. Amen. C'est là que Dieu lui donne, c'est là que physiquement, on lui donne une forme physique. Dimanche encore dernier, j'ai dit que nous étions un esprit dans ce sens que Dieu dit ceci, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est un esprit, l'homme est aussi un esprit. Et Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et je vous ai dit encore ceci, en Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme, mais l'homme était un esprit. Genèse chapitre 2 est venu après. Dieu a pris la poussière et la Bible dit, le verset n'a pas dit, Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Non, il est dit, Dieu forma. Former, ça veut dire c'est donner une forme. On donne une forme à quelque chose qui existe. On ne donne pas une forme à quelque chose qui n'est pas existant. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Genèse chapitre 2, verset 27 dit, Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça n'est pas dit que c'est différent de créer l'homme à partir de la poussière. Il l'a formé. Il a donné une forme. Donc l'homme existait avant Genèse 2, 7. Donc on n'a pas d'abord pris la poussière et puis on a soufflé et puis l'homme a existé. Non, il était déjà là. Mais il n'avait pas de forme parce qu'un esprit n'a pas de forme. Alléluia. Un esprit n'a pas de forme. Il existait mais n'est pas de forme. Et Dieu l'a formé à partir de la poussière de la terre. Donc la poussière qui a formé notre corps, qui forme notre corps physique, est en fait une habitation de notre esprit. Est en fait une forme qu'on a donnée à l'esprit pour qu'il puisse fonctionner sur la terre. Amen. Alléluia. Je l'ai dit aussi la dernière fois, Jean 10, 34, Jésus, c'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, aux gens, vous êtes des dieux. Jean 10, 34. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Dis à ton voisin, l'autre merci, dit, je suis un dieu. Quand Jésus a dit ça, les gens ont voulu le lapider. Est-ce que tu peux accepter ça d'abord? Que tu es un esprit. Tu es un esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ce sont les gens, c'est pourquoi la Bible dit, les fils de ce monde, les païens, ils comprennent mieux les choses spirituelles que les croyants. Mais les sorciers, ils ont compris il y a longtemps qu'ils sont esprits. Mais eux, ils ont décidé d'être esprits du mal. Mais si vous savez que vous êtes esprit, donc on dit le monsieur s'est envolé, mais tu vas le régler tranquillement. Toi-même où tu es là, tu es un esprit. Ça effraie les gens d'imaginer qu'ils sont Dieu. On dit non, parce que si on comprend ça, est-ce que c'est pas ce que Lucifer a voulu? Lucifer est un esprit. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Les pouvoirs que Dieu avait donnés avant à l'esprit sont toujours valables. Ils ont tout simplement été atrophiés, éteints, parce que nous sommes devenus trop liés à nos cinq sens. La sensibilité de notre esprit a été tuée. On la tue sans s'en rendre compte dans nos enfants, dans notre vie. On dit, mon frère, tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu n'as pas touché, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Or, il y a une vie spirituelle. Maintenant, si tu ne penses pas à la vie spirituelle, si tu ne sais pas ce qu'elle est, tu ne peux pas la développer. Et un esprit, Dieu ne se répond pas de ses dons. Satan, il est Satan, mais ses pouvoirs d'esprit sont restés. Les pouvoirs, tes pouvoirs divins, en tant que fils de Dieu, esprit, sont en toi. Le pouvoir de la création. Tout ça, ça existe en toi. Tu façonnes ton avenir. Tu peux créer le foyer que tu souhaites avoir. Amen. De toute façon, je vais vous montrer tout ça dans la parole de Dieu. Si vous ne travaillez pas ce que vous souhaitez, comme vous êtes un esprit, c'est ce que vous ne souhaitez pas, mais auquel vous pensez qui va vous arriver. Dimanche prochain, je vais commencer à en parler. Je vous ai expliqué la dernière fois que Dieu n'exauce pas vos souhaits. Dieu exauce la foi. Mais je vais aller encore plus loin. Dieu exauce votre pensée dominante. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, tu sais, banalement, l'esprit, sa parole, sa semence, c'est ce que tu penses, c'est ce à quoi tu penses. Si tu penses plus, si tu crains plus de ne pas te marier, ça veut dire tu as peur de ne pas te marier, tu as peur de... Et tu réfléchis plus à ce qui t'effraie. Je risque de mourir vieille. Si tu médites plus sur ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Parce que la foi, c'est la ferme assurance, pas de ce qu'on craint, mais c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Si tu ne mets pas dans ta pensée, or l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qui est dans la pensée. Si tu ne penses pas et tu ne médites pas tes espérances, tes espoirs, en fait, sans te rendre compte, si tu penses plus à ce qui t'effraie, c'est ce qui va t'arriver parce que tu as la foi. On est obligé d'avoir la foi dans quelque chose, frère. Soit j'ai la foi dans mes rêves, soit j'ai la foi dans ce que je crains. La foi, l'esprit n'est jamais neutre. C'est-à-dire, si j'arrête de rêver et d'espérer et que je commence à plus penser à ce qui m'effraie, je mets la foi que... Je dis, quand tu rentres dans ton foyer, et j'espère que mon mari ne va pas me tromper un jour. Hein, j'espère que mon mari ne va pas me tromper. Moi-même, dans ma famille, là-même, tous les maris ont été brisés. Donc, en fait, tu commences à plus te concentrer pour conserver ton foyer de peur que ton mari parte. C'est ça, là-même. Toi-même, tu es en train de créer son départ. Parce que... Alléluia. Tu as la foi que d'un moment à l'autre, il va partir. Donc, tu fais tout pour le garder. Or, l'espérance, c'est quelqu'un qui travaille par rapport à ce qu'il rêve. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois? Je vois un foyer épanoui, je vois un foyer heureux, je vois un mari avec qui je m'entends. Si c'est ce qui habite ma pensée, et que, ça c'est mon espérance, amen, et que j'ai la ferme assurance de cela, c'est ce qui va m'arriver. Maintenant, si je pense plus à ce que je ne veux pas, C'est pourquoi Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que tout simplement, mais c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Lorsqu'il est monté sur l'eau, il souhaitait rejoindre Jésus. Mais quand le vent a commencé à souffler, vous pensez qu'au début, Pierre n'a pas eu la foi? Pierre ne souhaite-t-il pas rejoindre Jésus-Christ? Alléluia. Il souhaitait. Donc il est monté sur l'eau. Et au début, il a cru. Donc il marchait. Mais à un moment donné, dans sa tête, tout a chamboulé. Au départ, il savait bien que c'était de l'eau. Et il y avait des vagues, mais les vagues étaient petites. Il s'est dit, bon, là-dessus, Jésus a dit, suis sa parole, je monte sur l'eau. Tout ça, c'est la foi. Maintenant, pendant qu'il avance, le vent s'est mis à souffler. Qu'est-ce qui... Je disais dimanche dernier que Paul, Pierre n'a rien dit. Tout s'est passé dans sa pensée. En même temps, il a commencé à dire, mon frère Pierre, c'est une affaire de l'eau qui est là. Ça devient sérieux. Et quand les vagues amènent les jets d'eau sur lui, ça le mouille comme ça. Bah. Subitement, il a commencé à avoir peur de ne pas se noyer. Vous comprenez, non? Et au lieu de focaliser son esprit sur son espérance, il a focalisé son esprit sur comment je dois faire pour ne pas couler. C'est pour ça qu'il a coulé. Parce qu'il a eu la foi. Ah. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que pendant les 5 semaines, vous avez eu des miracles? Parce que les paroles que vous avez entendues étaient des paroles d'encouragement. Et à un moment donné, votre esprit a saisi que c'est ce qui va vous arriver. Et puis vous avez commencé à croire en votre espérance. Subitement, toute la nature a commencé à fonctionner parce que vous avez la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et quand vous avez maintenu votre espérance, quand vous avez fait partie de votre cœur ce que vous craignez. Ce n'est pas dire que ce que vous craignez n'existe pas. Ça veut dire tout simplement que ça ne doit pas faire l'objet de mon attention plus fortement que mes espérances. Si ce que je crains, je presse plus d'attention à ce qui m'effraie, c'est ce qui va m'arriver. Mais ce qui m'effraie existe. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la réalité. Ça existe. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que l'esprit que vous êtes dit et pense. Pour revenir à l'histoire d'écoute, je souhaite écouter le pasteur pendant qu'il était parlé. Ça, c'est un souhait. Mais si mon esprit commence à penser à la maison, malgré mon souhait de l'écouter, je ne vais pas entendre. Parce que mon esprit est parti à la maison. Là où ton esprit va, c'est ce qui va t'arriver et c'est ce que tu fais. Si ton esprit est dans la salle et en train d'écouter une personne, tu vas l'écouter. Si ton esprit n'est pas là, tu peux même souhaiter l'écouter. Tu peux même souhaiter rester là. Mais s'il y a un événement qui attriste tellement ton cœur, que ton esprit est en train de gérer cet événement-là, tout ce qu'on fera ici, tout ce qui peut se produire, cela ne t'arrivera pas. Si quelqu'un me suit. Amen. En fait, je vais vous montrer ce que Dieu veut nous montrer dans sa parole. C'est que tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez, non? Il y en a qui vont dire, mais si tout est possible, est-ce que je peux demander n'importe quoi? Toute chose à Dieu, on peut le demander. Mais il y a, de par notre origine, une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Satan s'est rebellé dans le sens qu'il n'a plus consulté Dieu. Nous, malgré le fait que je suis un esprit et que je peux faire beaucoup de choses, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. De ce que je sais, de ce que je connais mon origine et ma dépendance de Dieu, je me réfère toujours à lui avant de lui demander si en tant que moi-même Dieu, est-ce que je peux changer telle situation. C'est-à-dire, en fait, quand même tu pries là, c'est une permission pour changer une situation. Parce que toi-même, tu sais que c'est pas que tu peux pas. Tu peux la changer. Mais tu dépends de lui parce qu'il est le roi. Donc en fait, tu traites avec lui. Puis-je? Est-ce que je peux rentrer dans ce travail? Est-ce que ça t'intéresse que je travaille dans cette structure? Seigneur, ça t'intéresse? Sinon, si tu veux y aller, tu vas y aller. Alléluia. Si tu veux travailler, que tu as la foi, tu vas travailler là-bas. Si tu veux connaître la promotion, que tu as la foi, tu connaîtras la promotion. Si tu veux que ton salaire augmente avant la fin du mois, que ton salaire soit doublé, que tu crois, ton salaire va doubler avant la fin du mois. Si tu crois tout ce que tu vas croire, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que tu l'as reçu, tu vas le voir s'accomplir, disent clairement les Écritures. Tout ce que tu veux, si dans ton cœur tu ne doutes pas, cela va arriver. Alléluia. Ça, je peux tout. Mais est-ce que je vais le faire? Parce qu'il faut que je lui demande, est-ce qu'il est d'accord? Alléluia. Alléluia. Le problème n'est pas un problème de pouvoir. C'est comme là où je suis, un homme peut s'arrêter et puis il peut pécher. C'est pas le pouvoir ne remet pas, c'est pas le problème n'est pas le pouvoir. Mais le problème est, est-ce que c'est vrai que tu peux t'élever et puis dire, je vais mentir. Mais je ne mentirai pas parce que mon Dieu me dit de ne pas le faire. Sinon, je peux. Alléluia. En tant que Dieu, tu peux. Maintenant, la question c'est, est-ce que je dois? Vous me suivez? Alléluia. Voilà, la question n'est pas, Seigneur, est-ce que je peux? La question n'est pas de poser à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux faire ça avec moi? Non. À celui, il dit, Paul dit, je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, on peut tout, on peut tout. Mais est-ce que c'est parce que je peux tout que je vais faire tout? C'est là la question. Alléluia. Mais n'empêche qu'il faut savoir que tu peux. C'est pourquoi il dit demain devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie avec que tu vives. Parce que tu sais qu'il y a des choix si tu les prends. Tu vois? Si tu pars pour aller travailler dans tel endroit, tu peux te dire non, ça peut te créer des problèmes, tu vas te tenir de moi. Tu sais que bon, c'est pas le plan qu'il a tracé pour toi. Et tu ne fais rien sans le consulter. Mais tout ce que tu décides, auquel tu crois, cela va arriver. Amen. Je suis trop content parce qu'avant la fin de l'année, on va avoir encore le plus gros miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour mieux composer cela, il faut comprendre clairement que nous sommes donc des esprits. Cela est clair dans la parole de Dieu. Et la Bible dit très clairement que, on a lu aussi le dimanche dernier, que par la foi, nous pouvons tout. Avec la foi, nous pouvons tout. Il n'y a pas de choses impossibles pour celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Tout à l'heure, j'ai fait une parenthèse pour parler de quelques éléments de la foi. C'est ce que je vais approfondir le dimanche. En quoi est-ce que la foi consiste? Quelles sont les différentes étapes en nous? Comment, en tant qu'un esprit, parce que mon esprit crée toujours, comment est-ce que je peux garder mon esprit pur? Comment est-ce que, parce que si mon esprit devient impur, c'est ce à quoi je pense qui est impur qui va m'arriver. Si quelqu'un a tellement peur, il a tellement peur de ne pas tomber dans l'impudicité, il pense à ça, il risque de tomber encore dans l'impudicité. Si quelqu'un, toute sa crainte lorsqu'il est dans sa chambre, c'est de ne pas se masturber, il va finir par se masturber. C'est le problème qui fait que certaines personnes qui ont ces liens-là ne sont pas délivrées, tout simplement parce que leur pensée crée ce qui leur arrive. Si tu crains dans ta vie de rencontrer des escrocs dans tes affaires, si tu penses plus aux escrocs que tu veux éviter de rencontrer dans ta vie, tu vas les amener parce que c'est ce que tu crois qui va t'arriver. Les escrocs vont venir vers toi. Si par contre dans ton esprit tu penses plus à tes espérances, rencontrer des hommes de qualité, rencontrer des gens qui vont te conduire vers ta destinée, j'ai pas dit que les escrocs vont disparaître, mais ce qui va se produire c'est qu'à cause de ta foi, tu vas attirer davantage vers toi des gens qui te feront réussir. Ce à quoi tu penses de manière dominante, c'est ce qui t'arrive. Si tu crains de rencontrer des faux types, mais ça focalise ton esprit. Et il faut que j'évite, il y a trop de faux types à Abidjan. Il y a trop de faux types à Abidjan. C'est eux que tu vas rencontrer. Parce que tu as un esprit, tu crois qu'il y a trop de faux types. Donc comme tu crois qu'il y a trop de faux types, les faux types, tu les crées. En fait, tu les attires vers toi parce que c'est ce que tu as semé. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça la foi fonctionne. Ça, ce n'est qu'un élément de la foi. Il y a encore d'autres éléments dont nous parlerons. Vous pouvez tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, la notion de Dieu, c'est que ce pouvoir-là, notre divinité, Satan nous a arraché, nous a ôté la conscience de qui nous sommes. Vraiment. Et la première des choses, donc, en séduisant Adam et Ève pour lui dire, mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dès que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la chose dont ils ont pris conscience, c'était leur corps physique. Donc, les cinq sens sont entrés en fonction. Les cinq sens existaient, mais ils n'étaient pas le moteur de la vie de l'homme. L'homme avait le toucher, il avait l'odorat, il avait la vue, il avait tous les cinq sens que nous avons cités, mais l'homme n'en était pas conscient. De sorte que, il avait le toucher, donc on peut le toucher physique, mais il était nu, il n'en avait pas honte. Et lorsqu'il a mangé le fruit interdit, ce dont il était conscient, c'est qu'il est nu. Donc son premier réflexe, c'est de se protéger. C'est-à-dire, commencer maintenant à protéger ses cinq sens, commencer à se garder. C'est là qu'il a commencé à prendre conscience de la nature poussière d'où il est issu, dont il est issu. Amen. Ou bien de la forme dont il était fait. Et ainsi de suite, petit à petit, l'homme va commencer à dégringoler. Et c'est dans la nature de la chair. La Bible dit les œufs de la chair, n'est-ce pas? L'idolâtrie, les mensonges, les jalousies, la haine, les critiques, l'esprit de concurrence, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses sont des œuvres et des manifestations de la chair. Dieu a créé en l'homme un esprit pur, droit. Tout ce qui sort de Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. En fait, depuis l'origine, il y avait un problème avec la poussière. Parce que quand Dieu dit, la terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu voulait que l'homme vienne sur la terre avec le corps poussière, mais pour apporter son règne. Donc, il avait mis dans un corps, mais l'homme était supérieur au corps physique. Quand l'homme est devenu conscient de la poussière avec laquelle il était formé, il a commencé à agir selon elle. Mais elle était déjà corrompue. Elle était déjà corrompue. Amen. C'est pourquoi Dieu avait envoyé l'homme sous forme d'esprit au départ pour qu'il fasse venir toute la terre sous son règne. Parce qu'au début, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit au départ, Dieu a créé les cieux et la terre. Bon, là, c'est encore une parenthèse. Mais on croit que avant l'homme Adam, il existait d'autres êtres. C'est pourquoi, lorsqu'on fait les fossiles là, on trouve des gens bizarres. Mais ils ne sont pas des descendants de Adam. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un point. Et puis après quoi? On dit la terre était informe et vide. La plupart des théologiens sont unanimes pour dire que entre ces deux phrases-là, s'est écoulé peut-être des millions d'années. La terre était informe et vide. Donc on croit que c'est dans cette période-là que les dinosaures, les trucs bizarres là ont existé. Parce que les fossiles existent. Ça existe. Voilà. Maintenant qu'on dit la terre est devenue informe et vide, on croit qu'au départ, donc, quand Satan a été chassé du ciel, bon, ce sont des théories, hein, c'est pas la part, vous n'êtes pas obligé d'accepter. On croit que quand Satan a été chassé du ciel, il est venu sur la terre et il a amené du désordre, qu'on appelait, donc la terre était informe et vide, le tohu bohu, là, c'était ça. Et Dieu a amené l'homme pour qu'il ramène sur la terre la royauté de Dieu. Mais pour que l'homme puisse entrer sur la terre, il fallait qu'il ait une partie un peu poussière. Mais comme Dieu savait que la terre était déjà tohu bohu, elle était corrompue, il a voulu que l'homme soit un esprit supérieur qu'il allait. Mais donc il n'a pas rendu conscient de la nature poussière. Mais quand le diable l'a fait manger le fruit du bien et du mal, il en est devenu conscient. Et l'homme a cru dès lors que c'est là son origine, c'est là de là qu'il vient. Et il a commencé à s'identifier à partir de ce que ses cinq sens lui disaient de lui. Son nom, sa personne, ses habitudes, son caractère, ses pensées. Donc, si dans la vie, la forme, la manière dont tu as conçu dans le péché, t'a amené à être tourné vers l'impudicité, les hommes sont définis. Ils disent, moi mon gars, je suis un homme à femme. Il y en a qui se définissent comme ça. Tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas toi. Il y en a qui se définissent, moi, je suis timide, je suis ceci, je suis cela. Tu n'es pas tout ce que tu es en train de dire. C'est ta chair qui est ainsi. Tu dois te distinguer d'elle. Amen. Alléluia. Voilà encore ce que l'Éternel dit dans le psaume chapitre 8. Il dit, psaume chapitre 8 à partir du verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et regardez ça, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? De l'homme. Qui était fait de peu inférieur à Dieu? L'homme. Normalement, l'homme, de par sa puissance, il est supérieur aux anges. Parce que l'homme crée. Les anges ne créent pas, ils exécutent. L'homme, il pense. Les anges viennent exécuter. Tu es divin. Tu es divin. Étant conscient de cette divinité, tu peux changer le monde. Tu peux changer ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu peux changer favorablement ta destinée. Tu peux améliorer les choses. Tu peux changer la vie de ta famille, de tes parents. Tu peux devenir une bénédiction pour l'humanité. Parce que c'est ce que tu es. Alléluia. Alors Dieu va nous donner plus d'exemples dans la parole de Dieu. En l'occurrence, celui sur lequel nous allons nous appuyer. Celui d'Abraham. J'ai dit la dernière fois, parce que n'oublie pas que nous sommes tout le temps dans la série d'enseignements sur Jéhovah. Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'ai dit que cette notion de Jéhovah Jireh, cette révélation de Jéhovah Jireh, a été faite à Abraham lorsqu'il est monté sur la montagne en amenant son fils. Et lorsque Abraham est arrivé à cette étape-là, Abraham avait suivi toute une série de formations avec Dieu. En fait, la série de formations que Dieu va donner à Abraham, les étapes que Dieu va donner à Abraham, sont des étapes pour l'amener à retrouver sa véritable identité. C'est pourquoi, à un moment donné de ce processus, Dieu va dire, en fait, ton vrai nom, c'est Abraham. Avant, on t'appelait Abraham. Alléluia. On t'appelait Abraham, mais ton vrai nom, c'est Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Tu es le père de beaucoup de personnes. Mais avant de changer son nom d'Abraham en Abraham, Dieu va demander à Abraham de passer par toute une série de formations. Amen. Alors nous allons lire, lisez avec moi, Actes chapitre 7. La partie que je vais aborder maintenant, je l'ai traitée. En fait, le squelette de ce que j'ai traité se retrouve aussi dans l'enseignement sur quitter pour posséder. Quelqu'un a déjà écouté cet enseignement-là? Qui a quitté pour posséder? Voilà. On va un peu suivre à peu près la même structure, mais je vais faire ressortir cette fois-ci la notion de l'identité divine. Comment Dieu a amené Abraham donc à pouvoir entrer dans cette identité. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. La Bible nous dit de marcher sur ses traces. En fait, de quitter notre état charnel pour entrer pleinement et pour être conscient de qui nous sommes, tout en étant soumis à Dieu et en faisant sa volonté. Alléluia. Alléluia. Le fait de recevoir l'appel, le fait d'entendre ce que j'ai dit est une bonne chose. Mais comme je vous ai dit par exemple que en tant que des êtres divins, quand vous pensez à une chose de manière persistante, où vous maintenez votre esprit sur une chose, cette chose-là finit par vous arriver. Mais le message, comment vous amener, par la grâce de Dieu, à maintenir votre espérance de manière ferme? Comment ne pas dévier? Et on va se rendre compte que dans la vie d'Abraham, malgré la voie, l'espérance que Dieu lui a donnée, il va être très souvent amené à vaciller sur le chemin de sa destinée. En fait, il avait des problèmes pour retrouver son identité. Parce que des éléments qui étaient en lui, la vieille nature, le vieil homme, l'homme charnel, l'amenaient très souvent à revenir aux choses qu'il devait vomir. Actes chapitre 7. Actes des apôtres, le chapitre 7. À partir du verset 2, il est dit: Étienne répondit: Homme frère, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser les pieds, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant. Dieu parlait ainsi, sa postérité, Dieu parla ainsi. Amen. On va s'arrêter là. Et aller maintenant dans le livre encore de la Genèse. Genèse, le chapitre 11, je lis à partir du verset 31. Il est dit, Térak, bon, on va remercier au verset 27 pour que vous sachiez qui est Térak. Verset 27, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, ou bien Abram, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Parenthèse encore, Ur en Chaldée, là, c'est la Mésopotamie. Abraham et Nakhor prirent des femmes. La femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Alors je vais juste donner le contexte de notre développement et puis nous allons prier pour ce que nous avons entendu déjà ce soir. Amen. La Bible dit, c'est vrai, la Bible définit Abraham comme étant le père de la foi. Et je disais tantôt que sa vie est un véritable témoignage de celui qui retrouve la véritable identité divine. Amen. Et ses hésitations, son combat, marquent un peu la lutte que nous avons nous aussi dans ce cheminement. Mais l'avantage que nous avons par rapport à Abraham, c'est que nous avons la parole. Et les choses sont déjà écrites. Cela nous permet d'aller beaucoup plus vite. Amen. Alors celui qui va saisir cela, très rapidement, même avant la fin de ce séminaire, tu vas entrer dans une autre dimension de gloire. Je t'assure, tu vas entrer dans une autre dimension de gloire. Alléluia. Quand vous comparez Actes chapitre 7 et Genèse chapitre 11 à partir du verset 31, vous comprenez ceci. Abraham était avec son père qui s'appelle Térakh. Et les deux habitaient un pays appelé Ur en Chaldée, ou en second nom la Mésopotamie, qui est en fait la région. Ils étaient là-bas. La Bible dit dans le livre de Josué, on verra ce passage la prochaine fois, que dans ce pays-là, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient des idoles. Et Dieu, selon Actes chapitre 7, verset 2, il est dit que c'est quand ils étaient en Mésopotamie que Dieu a parlé à Abraham, pas à son père. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton père, quitte la famille de ton père, quitte et va dans le pays que je te montrerai. Et on voit que Abraham, lorsqu'il a entendu cet ordre-là, n'a pas exactement obéi à ce que Dieu lui a dit. La Bible dit qu'il va partir avec son père. Et dans le livre de Genèse, chapitre 11, on n'a même pas dit qu'il est parti avec son père. On dit que c'est son père qui les a soulevés pour partir. En réalité, Dieu n'avait pas parlé à Térakh. Mais selon Actes, chapitre 7, c'est à Abraham que Dieu avait parlé. Donc, c'est l'ordre qu'il avait reçu de Dieu qui a amené Abraham à se déplacer. Mais au lieu d'obéir exactement à ce que Dieu lui avait dit, de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la famille de son père, Abraham va quitter simplement le pays. Mais il ne va pas quitter la patrie. Il ne va pas quitter son père. Il ne va pas quitter Lot. Et Abraham va partir avec tout ce groupe-là pour aller à Canaan. Mais au lieu d'arriver à Canaan, la Bible dit qu'ils vont s'arrêter dans une autre ville. Au départ, ils partaient à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est le lieu où Abraham devait être pour être béni. Mais Abraham ne va pas aller jusqu'à Canaan. Il va s'arrêter dans une autre ville qu'on appelle Charan. Donc, il y a Canaan et puis il y a Charan. Abraham va s'arrêter à Charan. Tellement il va s'arrêter à Charan, la Bible dit qu'ils vont s'établir. Quelqu'un à qui Dieu a dit va dans tel endroit, va finir par s'établir dans une autre ville qu'on appelle Charan. Et la Bible dit que même à Charan, là, il va prospérer. Il va prospérer, mais il n'était pas en train d'entrer dans sa destinée. Et la Bible dit que Abraham va rester à Charan jusqu'à la mort de son père, qu'on appelle Térakh. Térakh signifie quoi? Térakh signifie retard. En hébreu, là, le nom du papa d'Abraham, là, c'est un bon père. Hein? Nous bénissons Térakh. Mais son nom signifie retard. Tu vois, il y a des choses avec lesquelles tu quittes ton pays. Le pays, là, c'est le monde. Alléluia. C'est le péché. Et par rapport à la notion d'identité, je vais dire encore, c'est quoi le pays? Abraham va quitter son pays, mais il ne va pas quitter... Parce que Dieu a dit, quitte ton pays et puis quitte ta patrie. Vous savez, quitter la patrie et puis quitter le pays, c'est deux choses différentes. Tu peux être en France et puis être un patriote. Donc, tu as quitté ton pays, la Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas quitté ta patrie parce que étant en France, tu es toujours rattaché à ta patrie, tu es patriote. Dieu dit, quitte ton pays. Et puis après ça,
quitte ta patrie.
Alléluia.
Frère, pour retrouver ton identité, il faut quitter ton pays.
Amen.
Il faut quitter ta patrie. On va quitter la Côte d'Ivoire.
Bon, je suis pas en train de dire qu'on va tous avoir des visas pour aller aux États-Unis.
Il faut quitter le pays, il faut quitter la patrie, il faut quitter la famille de ton père. Toutes ces choses que Dieu est en train de citer en ce qui concerne Abraham constituent les éléments qui lui ont donné son identité. Le pays, la patrie, la famille. C'est ce qui a donné à Abraham sa première identité. C'est son papa qui lui a donné son nom, Abraham. Son pays lui a donné une nationalité.
Alléluia. Alléluia.
Vous savez, si vous voulez rentrer dans votre identité, si vous voulez vivre, être fils de Dieu, être divin, manifester cette véritable identité que vous êtes, il faut dans votre cœur quitter ce pays. De manière pratique, je vais toucher d'autres points parce qu'il y a pays physiquement et puis il y a pays spirituel. Quand vous comprenez le message de la parole, vous allez comprendre que vous ne devez plus être, ou bien vous n'êtes plus ivoirien. Mais comme Pasteur Cassano enseigne, vous savez, nous sommes citoyens du royaume. C'est pourquoi j'ai dit, on cite beaucoup de choses, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que un pays te donne une identité. Quand tu dis que tu es ivoirien, bon, si tu veux, je suis citoyen du royaume de Dieu, vivant en Côte d'Ivoire et avec un champ missionnaire en Côte d'Ivoire. Vous savez, je peux dire, pour éviter de discuter avec les gens, que les gens te demandent de quelle nationalité, je peux dire ivoirien. Tu comprends? Mais dans votre cœur, vous devez saisir qu'en réalité, vous n'êtes pas ivoirien. Ou bien encore ton pays, peut-être, il faut comprendre qu'en réalité, tu n'es pas bété. Tu n'es pas djoula. Tu n'es pas baoulé. Tant que tu seras baoulé, tu ne peux pas rentrer. Tant que tu seras ce nouveau. Parce que le fait d'être ce nouveau, bété, djoula, ivoirien, te donne une attitude, ça te donne une manière d'être. Et cette manière d'être-là, est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi l'Éternel pouvait dire, mes amis, si vous, on peut beau dire, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, mais si dans votre cœur, vous vous sentez, quand on parle, tu dis, mon frère, je suis un bété, quand on dit bété, c'est mon bété. Tu vois, sans te rendre compte, pendant que tu le dis, tes paroles et ta pensée, je vous ai dit, le pouvoir de la pensée. Je dis que la pensée crée. Quand tu penses de manière dominante que tu es, citez-moi une ethnie. Yakuba. Quand tu penses de manière, sans te rendre compte, tu sais, sur les Yakuba, sur les Bété, sur les Ivoiriens, il y a une domination. Sans t'en rendre compte, parce que tu es de ce pays-là, parce que tu es de cette nation, parce que tu es de ce territoire, ça influence tes choix. Ça influence ton caractère. Ça influence ta manière de marcher. Ça influence... Alléluia. Ça influence ta façon de parler avec les gens. Ça influence ton comportement. Et c'est un blocage à ta véritable identité, qui est une identité céleste. Quitte ton pays. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu comprennes à un moment donné que tu es du ciel. La Bible dit, comme sont les terrestres, ainsi ils sont. Mais ce qui est céleste, est céleste. Il faut qu'à un moment donné, parce que je dis, c'est ce que tu penses que tu deviens. Si dans ton esprit, tu es ivoirien même, tu seras limité aussi au pouvoir de l'ivoirien. Dans ton esprit, parce que tu es ivoirien, tu n'as pas droit à ce que les Américains ont. Est-ce que tu vous comprenez? Parce que connaître ton identité, t'identifier à quelque chose, t'identifie en même temps au pouvoir de cette chose. Donc quand tu t'identifies en tant qu'Ivoirien, tu es limité à la puissance et au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Quand tu t'identifies comme étant Ivoirien, tu es limité au pouvoir économique, social de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est en galère, toi tu es Ivoirien. Donc toi aussi tu as des problèmes. Mais ce n'est pas ce que tu dis. Tu peux beau dire dans ton esprit, je suis citoyen du ciel. Mais si ta pensée... Et que tu es plus ivoirien que citoyen du ciel. Du coup, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire t'arrive aussi. Ton identité céleste n'arrive pas à se démarquer pour commencer à faire venir le règne de Dieu. Donc tu subis de plein fouet les problèmes de la Côte d'Ivoire, les problèmes des Bété, les problèmes de Djoula. Tu les subis parce que tu es comme ça. Or, tu es ce que tu penses, pas ce que tu dis. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, on sera délivré. Alléluia. Alléluia. Les choses auxquelles nous nous sommes identifiés, il y en a beaucoup parce qu'il y a plusieurs. Ton pays, ta patrie, la famille de ton père, nous allons voir spirituellement ce que chaque chose signifie. Et si nous saisissons, si nous comprenons, alors votre exercice pour cette semaine, sortez de vos nations d'origine, dans votre tête. Comprenez que, en Côte d'Ivoire, là, je n'ai pas dit de régner la Côte d'Ivoire, mais comprenez que tu es un mission, tu es un envoyé du ciel vers la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas... Bon, si tu as carte d'identité pour ne pas choquer les gens, tu es un Ivoirien. Mais c'est ta pensée qui est importante. Ce qui doit changer, c'est ta pensée. Car ta pensée va influencer tes confessions. Dans ton esprit, dans votre esprit, faites cet exercice-là cette semaine. S'il vous plaît, quittez le pays. Quittez votre pays. Alléluia. Quitter ne veut pas dire détester. Quitter veut dire sache ton origine. D'où est-ce que tu viens? Tu ne viens pas de la Côte d'Ivoire. Tu ne viens pas du Congo. Tu n'es pas congolaise. C'est ta chair qui est ivoirienne. C'est ta chair qui est congolais. C'est ta chair qui est djoula. C'est ta chair qui est bété. Mais toi, tu es un esprit. Donc tout ce dans quoi ta chair s'est identifiée, tu dois commencer à créer la séparation parce que tu dois être conscient de ton identité. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Nous sommes dans un voyage qui va nous amener dans une dimension. Quand nous saurons qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons à faire? Ah, frère, nos pensées. La Bible dit que l'Esprit vienne renouveler notre entendement. Lorsque Jésus-Christ est venu enseigner la parole, la Bible dit, répentez-vous, répentez, ça veut dire, change ta manière de penser. Parce que toute ton attitude, tes actions, ce que tu crées dans ta vie, sont fonction de ta pensée. Si dans ton esprit, tu es homme, tu es chair, tu ne peux pas vivre dans le miracle. Tu ne peux pas vivre dans l'extraordinaire parce que tu es simplement un Ivoirien, parce que tu es simplement un Bété. Et un Bété ou un Ivoirien, Djoula, ne fait pas de miracle. Mais un esprit fait des prodiges. Un esprit change les choses. Un esprit crée. Quelqu'un qui est divin, il crée. Il change. Il transforme. Il décide que ça ne sera pas ainsi et la chose n'est pas ainsi. Mais si tu es Bété, si tu dis ça va bouger, ça ne va pas bouger parce que tu es cher. Si tu es Djoula, tout ce que tu vas vouloir dire, ça n'arrivera pas parce que c'est ce que tu es. Il t'arrive ce que tu crois que tu es. Tu es divin. Lève-toi et parle à ton Dieu. Tu es un être céleste. Jésus a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Ne t'identifie pas à ces choses. C'est ce que tu penses qui t'arrive. Tu as cru dans ton être, tu as manifesté ta pensée dans ces choses-là. Et aujourd'hui, tu es limité comme les hommes Chanel sont limités. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas voir les choses se débloquer parce que les hommes sont bloqués, c'est leur nature. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Un homme ne peut pas prier, toutes choses vont arriver. Un homme ne peut pas. Mais un céleste peut. Un céleste peut changer les choses. Un céleste peut décider. Ridobo chatari de boussara babababashi. Riandobo de sarabara la primera de gloria. La canada sorobara la primera de gloria. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ce soir, l'Éternel ton Dieu veut que durant cette semaine tu fasses cet exercice de comprendre qui tu es. Qui tu es, d'où tu viens. Jésus a dit,
Mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je viens. Mais vous, vous êtes dans le faux. Il pouvait leur dire parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Vous croyez que vous venez d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. C'est ce qui vous corrompt, c'est ce qui habite vos pensées, c'est ce qui crée vos limitations. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et tu es de la nature de Dieu. Donc rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tu es de la nature de Dieu. Tu es de la même nature. À toi aussi, rien ne t'est impossible. Mais aux hommes charnels, il y a des choses impossibles à faire. À ceux qui marchent dans les cinq sens, il y a des choses impossibles. Au nom de Jésus, lève les mains vers le Seigneur. Seigneur, je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Ma prière est que ce soir, tu ouvres les yeux de notre cœur. Tu ouvres notre entendement afin de saisir notre identité. Qui nous sommes? D'où nous venons? D'où nous venons? Seigneur, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Oh, viens ouvrir les yeux de notre cœur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Seigneur Dieu, viens nous guérir, viens nous restaurer, viens briser. Rindo Boshatari Babas. Viens nous apprendre à quitter notre pays. Nous avons encore d'autres choses à dire, d'autres choses qu'Abraham devait quitter. Apprends-nous, Seigneur, à quitter. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître qui nous sommes.
Je désire te voir.
Disons cela à Dieu.
Je désire te voir.
Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Seigneur, merci pour ta grâce et vie. Sachez que ce soir, l'Éternel ouvre les yeux de vos cœurs. Si tu acceptes la parole de Dieu, si intérieurement, psychologiquement, tu commences véritablement à te détacher, alors tu pourras mieux percevoir, mieux sentir cette identité que tu proclames et tu pourras la vivre pleinement. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans nos mentalités, dans notre pensée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.